une proposition éventuellement à faire. Et si nous échangions notre vie avec ses frères et sœurs togolais pendant 6 mois? Vis ma vie pendant 6 mois. Ils viennent à Paris, ils se répartissent les logements des frères et sœurs de l'Église. Ils utilisent pendant 6 mois les ressources financières de notre Église pour voir aux besoins de la communauté, comme nous le faisons. Leurs enfants vont à nos écoles. Ils font leur culte dans cette belle bâtisse du 72 rue de Sèvres. Et puis nous, et puis ceux du dimanche soir aussi, nous allons tous au Togo, nous nous répartissons leur logement, nous faisons nos cultes à Lomé par exemple, nous utilisons leurs locaux, leurs ressources, nos enfants pourraient aller à leurs écoles. C'est équitable, non? Ça ne serait pas équitable, je vois quelques regards sceptiques. Faudrait-il conclure que nous sommes mieux aimés de notre Dieu, qu'il privilégie quand même les chrétiens de France par rapport aux chrétiens du Togo et d'ailleurs? Alors, les habitués savent qu'une fois par mois, au moins ces derniers mois, nous avons étudié de manière suivie la deuxième lettre aux Corinthiens. Il se trouve que ce matin, je n'ai eu à faire qu'une très légère entorse à cette série pour étudier un texte qui correspond au thème de notre culte. En fait, nous allons simplement faire le choix de passer le chapitre 7, qui raconte les retrouvailles entre l'apôtre Paul et son collaborateur Tite, l'émotion de l'apôtre devant l'amélioration de ses relations avec l'église de Corinthe. Nous allons devoir faire l'impasse là-dessus, mais nous arrivons au début du chapitre 8, qui nous amène précisément sur le terrain qui nous intéresse dans le cadre de ce culte, celui de la solidarité entre des chrétiens vivant dans des circonstances très différentes. Et je vous invite donc à lire dans 2 Corinthiens 8, au verset 1 à 15. Pour ceux qui voudraient utiliser les Bibles bleues, c'est à la page 1132. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 15. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Bien qu'ils aient été très éprouvés par leur détresse, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder la richesse de leur générosité. Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité en faveur des saints. C'était plus que nous n'avions espéré. Ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons encouragé Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce comme il l'avait commencée. De même que vous avez tout en abondance, foi, parole, connaissance, empressement de toutes sortes, outre l'amour que nous vous portons, abondez aussi dans cette œuvre de grâce. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Je dis cela pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riche. C'est un avis que je donne là-dessus. C'est votre avantage. À vous qui, dès l'année dernière, avez été les premiers non seulement à faire cette collecte, mais encore à la vouloir. Maintenant donc, achevez de la faire pour que la réalisation corresponde, selon les moyens que vous avez, à l'ardeur de votre vouloir. En effet, quand l'ardeur existe, elle n'est pas agréée en fonction de ce qu'on n'a pas, mais en fonction de ce qu'on a. Car il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance suppléera à ce qui leur manque, pour que leur abondance aussi supplée à ce qui vous manque, de sorte qu'il y aura égalité, ainsi qu'il est écrit, « Celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. » Nous allons donc méditer ce texte plus brièvement, comme cela a été dit, que d'habitude. Le point de départ de la réflexion de Paul, c'est la grâce que tous les disciples ont reçue de la part de Dieu. Et cette grâce, par définition même, c'est un don librement accordé par Dieu. Nous le rappelons souvent, et il est juste que nous le rappelions souvent. Mais c'est pour cela que les relations entre chrétiens, et entre les églises, les communautés des chrétiens, doivent être marquées par le don de ressources diverses, mais aussi le don de soi, le don réciproque de soi. Et on va y réfléchir en deux brefs points à partir du texte. Le don, d'abord, un reflet libre et joyeux de la grâce reçue. Un reflet libre et joyeux de la grâce reçue. Et ensuite, le don, un partage égal de la grâce reçue. Le don, donc, un reflet libre et joyeux de la grâce reçue. L'apôtre Paul nous présente dans ce texte trois groupes, en fait, de chrétiens. Il y a, bien sûr, les Corinthiens, auxquels il écrit cette lettre. Il y a les chrétiens de Macédoine, qui, en fait, se répartissaient entre trois églises, Thessalonique, Philippe et Bérée. Et il y a les chrétiens de Jérusalem. Ils ne sont pas désignés nommément ici, mais grâce à la première lettre aux Corinthiens, entre autres, on sait que ceux que Paul appelle les saints au verset 4, en fait, ce sont ceux de Jérusalem. Déjà au chapitre 16 de sa première lettre aux Corinthiens, Paul a donné des instructions concernant une collecte pour l'église de Jérusalem. Et en fait, cela fait plus d'un an que les Corinthiens ont décidé d'organiser cette collecte. Alors, il est probable, il est clair même que l'apôtre Paul a joué un rôle dans cette initiative. Mais le verset 10 nous montre que les Corinthiens étaient très motivés, désireux de participer, et qu'ils ont même été, entre les églises, les premiers à mettre en place cette collecte. Mais alors, pourquoi cette collecte? Nous avons quelques indices. Plusieurs indices dans le Nouveau Testament. Le livre des Actes, chapitre 11, verset 28, mentionne une famine qui a eu lieu du temps de l'empereur Claude. Et cette famine a particulièrement touché la région de Judée. Dans la lettre aux Galates, région donc qui comprend notamment Jérusalem. Dans la lettre aux Galates, chapitre 2, on apprend que Jacques, Pierre et Jean ont donné leur bénédiction à Paul pour qu'il aille annoncer la bonne nouvelle aux païens. En monde non juif. Mais il lui demande de se souvenir des pauvres. Et dans le contexte, on comprend qu'il s'agit des pauvres de Judée en particulier. Et donc la mission de Paul sera d'annoncer Jésus-Christ en pays païen, mais aussi d'exhorter les chrétiens, ceux qui sont devenus chrétiens dans ces pays païens, à faire preuve de générosité envers leurs frères et sœurs qui souffrent de la pauvreté en Judée. Et ça nous aide à comprendre pourquoi Paul parle si souvent de ces collectes et pourquoi il semble accorder une telle importance à la générosité des chrétiens non-juifs envers leurs frères et sœurs juifs. Cela, pour lui, faisait partie de sa mission. Plusieurs indices nous laissent entendre que l'église de Corinthe était composée en bonne partie, sans doute pas exclusivement, mais en bonne partie de personnes aisées. Un peu comme l'église de la rue de Sèvres. Et c'est tout à l'honneur des Corinthiens qu'ils ont eux-mêmes souhaité participer à la collecte pour leurs frères et sœurs de Jérusalem. Mais alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce que Paul doit le relancer maintenant, un an plus tard? Eh bien, parce qu'entre-temps, les choses se sont corsées entre l'Église et l'apôtre. On l'a déjà vu au long de notre série. Plusieurs Corinthiens se sont opposés à Paul et se sont laissés influencer par des doctrines étrangères, de fausses doctrines. Et du coup, on peut facilement imaginer que la collecte qui était directement associée à l'apôtre Paul, puisque c'est lui aussi qui allait en être le porteur pour l'église à Jérusalem, cette collecte a été un peu mise en veilleuse pendant le conflit. Et on remarque qu'en général, qu'il y a une corrélation assez directe entre la santé spirituelle d'une église et sa générosité. Ce qui est vrai aussi sur le plan individuel pour les chrétiens. Mais désormais, les relations entre Paul et les Corinthiens sont en voie de guérison. Et c'est pour ça que l'apôtre va aborder à nouveau ce sujet de la collecte. Et ce qui est frappant, c'est que le premier argument que Paul va utiliser pour relancer la générosité des Corinthiens, c'est l'exemple des églises de Macédoine. Verset 1. « Nous vous faisons connaître, frères et sœurs, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder la richesse de leur générosité. » Selon leurs possibilités, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité en faveur des saints. Les Macédoniens, pourtant pauvres, ont vécu comme un grand privilège de donner. En regardant les vidéos sur le Togo que nous avons vues, je suis frappé par le fait que les chrétiens africains que nous avons vus sont les premiers impliqués dans l'aide aux plus faibles. eux-mêmes sont très pauvres matériellement parlant par rapport à nous, et pourtant ils se savent eux-mêmes appelés à prendre soin de ceux qui sont les plus pauvres parmi eux et de vivre la solidarité entre eux. Eh bien, c'était l'attitude des églises de Macédoine. Et pour Paul, il y a là un exemple pour Corinthe. Verset 8, ce n'est pas un ordre que je vous donne. Ça relevait de la liberté des Corinthiens de donner ou pas. Mais je dis cela pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Un peu comme si quelqu'un venait nous dire, regardez l'église du Tabernacle, l'église des Ternes, l'église de l'avenue du Maine, combien ils sont zélés pour annoncer l'évangile. Qu'est-ce que vous faites ici à la rue de Sèvres? On n'aime pas trop en général quand on fait ce genre de comparaison, mais c'est exactement ce que l'apôtre Paul fait ici. L'amour dans la Bible, ce n'est jamais un simple sentiment. Ce n'est pas un simple sentiment, ni même un simple désir que l'autre se porte bien. Je suis sûr que tout le monde ici signerait pour qu'il n'y ait plus de faim dans le monde, pour qu'il n'y ait plus de pauvres. Mais Jésus décrit l'amour de façon beaucoup plus forte. Il dit ceci, « Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. » Jean chapitre 15, verset 13. Dans le cas de Jésus, ce don de soi, il est allé jusqu'à la mort sur la croix. Une mort pour nous et à notre place. Cela nous a été rappelé. Pour nous, le don de soi est vécu à la suite de Jésus. Il ne s'agit pas, nous n'avons pas, nous, à mourir pour sauver le monde de ses péchés. Il n'est pas exclu, qui sait, que nous devions aller jusqu'à la mort par don de soi. Sans doute pour beaucoup d'entre nous, ce ne sera pas le cas. Plaise à Dieu. Mais l'amour véritable est celui qui se plaît à donner, qui se plaît à prendre de ce qu'on a et à le donner à l'autre. Parce que le bien de l'autre nous remplit de joie. Lorsque des parents voient le visage de leurs enfants en ouvrant les cadeaux de Noël, ne ressentent-ils pas encore plus de joie que lorsqu'ils découvrent leur propre Smartbox, leur abonnement à Régal ou à Télérama? Les cadeaux qu'on offre à ceux qu'on aime ne sont pas motivés par un sentiment pesant du devoir. Ils ne sont pas motivés par une sorte de culpabilité, ni même par un désir de recevoir quelque chose en retour. Mais ce qui nous pousse en premier lieu à donner à ceux que nous aimons, c'est notre joie de les voir comblés et encouragés. Or, le Nouveau Testament nous affirme avec force que ceux qui partagent la même foi en Christ deviennent membres d'une même famille, frères et sœurs. Théoriquement, nous devrions être aussi émus de voir les conditions de ces frères et sœurs au Togo que si c'était des gens de notre famille ici qui vivaient dans ces conditions. C'est l'apôtre Paul lui-même qui dit à la suite de Jésus, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », acte 20, 35. En fait, donner, c'est ce qui nous est dit dans ce texte, donner, c'est aussi recevoir. Donner, c'est faire l'expérience de la grâce de Dieu. Or, l'apôtre Paul n'écrit-il pas dans sa lettre aux Éphésiens, que tous ceux qui ont confié leur vie à Jésus-Christ ont été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Autrement dit, si nous appartenons à Jésus-Christ, nous avons placé notre foi en lui, nous avons déjà reçu de Dieu une richesse inestimable et incomparable. Nous sommes entrés dans la présence même de notre Créateur pour toujours. Et c'est pour ça que Paul rappelle quel est l'exemple suprême du don de soi au verset 8. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riche. Il ne s'agit pas ici de richesse financière, matérielle. Jésus qui est Dieu de toute éternité, qui est le Seigneur légitime de tout l'univers, qui a un droit de propriété sur toute chose, il n'y a personne qui soit plus riche que notre Dieu. Eh bien, il a été prêt à s'appauvrir à l'extrême, en assumant la nature humaine tout d'abord, et en allant jusqu'à l'humiliation de la croix, pour nous sauver de la condamnation de Dieu et nous ramener en communion avec lui. Au cœur des motivations de Jésus, il y a l'amour, un amour gratuit, immérité, dont il a choisi de nous aimer. Or, Jésus ne cesse d'affirmer que ses disciples doivent se caractériser par leur amour, selon son exemple. Alors, si le Dieu Tout-Puissant a été prêt à prendre de son extrême richesse pour notre bien, n'est-il pas juste que ceux qui affirme vouloir lui ressembler, donne et se donne à sa suite. Or, la grâce de Dieu n'est pas graduée selon les uns ou les autres. Elle ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas la grâce classe première et la grâce classe économique. Il y a la grâce pleine et inépuisable de Dieu. Et c'est pour cela que donner pour bénir et relever nos frères et sœurs dans la foi, ça doit faire partie de notre ADN en tant que disciples de Jésus-Christ. Et ce sera notre second point. Le don, c'est un partage égal de la grâce reçue. Nous venons de le dire, la grâce est inépuisable. Quand Dieu fait grâce à l'un ou l'autre d'entre nous, il ne va pas la retirer à quelqu'un pour autant, pour la réattribuer. La grâce de Dieu n'est pas limitée. Il est intéressant à cet égard de comparer l'église de Corinthe et les églises de Macédoine, dont il est question dans notre texte. À Corinthe, il y avait plus d'argent, et la vie était plus facile qu'en Macédoine. En lisant les lettres aux Corinthiens, on n'a pas le sentiment, par exemple, que la persécution soit très présente. Ce n'est pas un thème majeur de ces lettres. On peut facilement imaginer que les chrétiens corinthiens n'avaient aucune envie d'échanger leur contexte avec celui de leurs frères et sœurs en Macédoine, durement persécutés, ou avec celui des frères et sœurs en Judée, en proie à la famine. Or, il est frappant de voir ce que Paul ne dit pas aux Corinthiens. Il ne leur dit pas ceci. Vous qui êtes riches, vous n'avez pas honte de ne pas donner aux plus pauvres. Il ne les a pas non plus pris par les sentiments en leur montrant un papyrus avec le dessin d'un enfant judéen malnutri. Mais il leur a plutôt parlé de solidarité réciproque. Et il met d'abord l'accent sur ce qu'ils recevront eux-mêmes, eux les Corinthiens, en donnant. Verset 7, « De même que vous avez tout en abondance, foi, parole, connaissance, empressement de toutes sortes. » Peut-être un tout petit peu d'ironie là de l'apôtre Paul, on ne sait pas. « De même que vous avez tout en abondance, outre l'amour que nous vous portons, abondez aussi dans cette œuvre de grâce. » Paul s'adresse à une église qui sort tout juste d'une grave crise, mais il peut quand même la féliciter d'être remplie de foi, de connaissance et d'empressement. On note qu'il ne souligne pas ici leur prospérité matérielle, qui est assez bien établie par ailleurs. Mais il leur dit ceci, « Ne voulez-vous pas aussi recevoir de Dieu la grâce de la solidarité vécue avec vos frères et sœurs ?» Paul, dans ce texte, est plein de pondération et de bon sens. Il ne demande pas aux Corinthiens de s'exposer à la détresse, verset 13, pour qu'après, ce soit les Judéens qui doivent leur rendre en quelque sorte leur don. Ce serait un peu absurde. Il leur demande simplement de donner avec joie, selon leur capacité, pour recevoir avec joie. Le but de Paul, et ultimement le but de Dieu, c'est que l'égalité de sa grâce soit reflétée par une réelle solidarité des chrétiens. La grâce de Dieu est égale. Pourquoi est-ce que nous n'agirions pas avec égalité les uns avec les autres? Nous ne méritons pas plus que les Togolais de vivre une relative prospérité matérielle. Je sais que tous ici ne roulent pas sur l'or, ce n'est pas mon propos, mais on voit bien la comparaison avec la situation là-bas. C'est une grâce de vivre dans un pays riche, avec une qualité d'éducation, de soins médicaux, on a vu l'eau courante, des ressources largement accessibles, on n'y réfléchit même pas. En revanche, tout dans notre situation n'est pas si enviable. Nous devons faire face à l'érosion de plus en plus nette de la solidarité intergénérationnelle. Nous nous laissons plus facilement happer par les idoles de la société de consommation, comme le faisait remarquer Sophie tout à l'heure. Les Togolais connaissent certaines grâces qui, pour nous, sont plus difficiles d'accès. Et c'est pour ça que Dieu n'appelle pas simplement les uns à donner et les autres à recevoir. Il appelle tous à donner pour que tous reçoivent. Et on voit cela dans notre texte, verset 14. « Dans la circonstance présente, votre abondance suppléera à ce qui leur manque, pour que leur abondance aussi supplée à ce qui vous manque. » De sorte qu'il y aura égalité. Plusieurs indices de cette lettre et aussi d'autres écrits de Paul nous montrent que l'apôtre voyait dans cette collecte venant des chrétiens non-juifs en faveur des chrétiens juifs, il voyait là un accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et notamment du prophète Ésaïe qui affirme que les nations viendront connaître le Dieu d'Israël et apporteront des présents au peuple d'Israël en signe en quelque sorte de ralliement à son Dieu. On trouve cela en Ésaïe 55 qui est cité au chapitre 9 dans le même contexte. au chapitre 9 de notre lettre, mais aussi Ésaïe 60, Ésaïe 65, Ésaïe 66. Et on a, je crois, la confirmation de cette idée au chapitre 15 de la lettre aux Romains, où Paul évoque la même collecte dont il est question ici, mais il en parle un peu plus tard. D'ailleurs, on voit que ça s'est bien terminé, que les Corinthiens ont effectivement participé. Paul écrit « La Macédoine et l'Achaïe, c'était la région où se trouvait Corinthe, ont bien voulu faire une collecte de solidarité en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur doivent. Car si les non-juifs ont eu part à leur bien spirituel, ils doivent aussi se mettre à leur service en ce qui concerne les biens matériels. » Les Corinthiens ont les moyens d'aider les chrétiens de Judée, mais les Judéens ont aussi beaucoup à donner, non pas sur le plan économique, mais sur le plan spirituel. C'est le Dieu d'Israël qui invite les païens à le connaître et à rejoindre le peuple de Dieu, dont Israël est en quelque sorte le tronc historique. Dieu a aussi voulu que ce soit des descendants d'Israël qui soient les premiers à entendre l'Évangile et les premiers à le proclamer, y compris à l'église de Corinthe, qui avait bénéficié de l'enseignement de chrétiens juifs comme Pierre, Paul, Apollos. Et donc il est juste que les chrétiens non-juifs répondent à cette générosité par leur propre générosité. Cet exemple ne s'applique pas directement à nos relations avec les chrétiens plus défavorisés au Togo ou ailleurs. Mais les chrétiens du Togo ont, comme nous, été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux très hauts. Leur vie est remplie de richesses, et cette richesse s'exprime parfois dans les domaines où nous sommes pauvres. Par exemple, la solidarité, l'hospitalité, la simplicité, la lucidité sur notre dépendance quotidienne à Dieu. Plus nous serons prompts à donner nous-mêmes de notre abondance, plus nous recevrons de leur abondance. Alors ouvrons-leur notre cœur, prions pour eux, à titre individuel ou en tant qu'Église. Saisissons les occasions pour leur donner de notre richesse, par exemple ces parrainages d'enfants dont il a été question. Et soyons sûrs que notre Dieu, dont la générosité est infinie, nous comblera aussi de leur richesse pour sa gloire. Amen.